est-ce que je dois redire mon fameux slogan habituel de
tout rentre dans tout le monde le connaît celui-là maintenant. Je pense que tu n'as plus besoin de le dire.
C'est le meilleur.
Tu trouves?
C'est le meilleur.
En même temps, c'est le meilleur parce que je suis le meilleur.
Dans qui tout rentre?
Oui, voilà. Je suis une porte d'entrée, voilà. Mais un jour, je serai une porte de sortie, je te l'ai déjà dit.
Eh bien alors, on va pouvoir démarrer. Bonjour et bienvenue dans Level Max. Un nouvel épisode différent d'habitude puisqu'on avait envie de vous faire partager une émission spéciale, nos musiques de cœur ou du moins d'un des membres de l'équipe qui est mise à l'honneur. Aujourd'hui, Beg.
Salut.
Level Max, c'est très court ça, dis donc, ça change Godclad qui s'était enflammé pendant 10 minutes.
Simple et efficace.
Level Max, ou plutôt Sandmax numéro 3, c'est maintenant. Enjoy, c'est Sandmax. Comment ça va, mon Mr. Beg?
Bah écoute, ça va très très bien, on est bien là, tous les
on
deux.
On est bien,
tranquille.
on est en mode duo, j'ai envie de dire. Comme a dit Inaman, en versus.
En versus. Non, on va pas être en versus, on va être en coop aujourd'hui.
En coop, ouais. D'accord. Est-ce qu'on peut-être rappeler aux gens un petit peu pour quelle est la particularité de cette émission qui, bah déjà, on est que deux par rapport à d'habitude où on est 6, 7, 8.
Voilà, donc là, le but, effectivement, c'est de vous faire découvrir, en tout cas, des musiques qui m'ont marqué, moi, dans mon parcours de joueur. Des musiques qui m'ont plu, qui m'ont marqué, qui m'ont fait me rappeler des très bons souvenirs. J'espère que je vais t'en faire découvrir à toi aussi.
En préparant l'émission, il y en a beaucoup que je ne connais pas,
ouais,
effectivement.
Donc, bah, je t'expliquerai pourquoi, d'où ça vient et pourquoi ça m'a marqué. Et j'espère que les auditeurs vont découvrir des choses aussi et que ça va vous plaire. J'espère que mon univers va vous plaire, tout simplement.
Donc, on rappellera également que cette émission, comme d'habitude, arrive un petit peu à l'improviste à chaque fois entre deux émissions principales, puisque c'est vraiment quand on a le temps de les enregistrer et quand j'ai le temps de les monter. Eh bien, on va pouvoir démarrer.
Allons-y.
Et on démarre tout de suite avec un classique de chez Classique.
Cette musique-là, c'est une musique qui, je pense, a marqué beaucoup de membres de ma famille tellement ils l'ont entendue, en fait. Je pense que ma mère, elle pourrait carrément vous la chanter, vous la fredonner tellement elle la connaît par cœur. J'ai saoulé tout le monde avec cette musique-là, mon cousin, mes grands-parents, ma mère, tout le monde.
Tu faisais Shifumi aussi à la fin ?
Bah oui, parce que du coup, effectivement, c'est un jeu où tu fais du Shifumi pour battre les boss. C'est assez marrant. Mais ouais, cette musique, elle est très marquante parce que bah, le thème, il est entêtant. On l'entend tout le temps, en fait. Et vu que on recommençait toujours le jeu au premier niveau, bah tu entendais toujours cette musique-là, quoi.
Oui, parce que faut rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas de sauvegarde.
Il n'y avait pas de sauvegarde.
Donc, un jeu Master System.
Et un jeu Master System, effectivement. Le jeu qui était inclus dans la Master System 2, qui était intégré dans la console, il n'y avait pas de cartouche. Tu allumais la console, ça allumait directement Alex Kidd in Miracle World, parce qu'il y a eu plusieurs...
Shinobi World, voilà. Il y en a eu pas mal. Ouais.
Voilà, il y a eu plusieurs opus d'Alex Kidd. Et donc là, c'était in Miracle World. Et ce jeu-là m'a beaucoup marqué parce que c'était Alex Kidd, le gameplay était cool, mais cette musique-là aussi, c'est une musique qui est parmi les premières qui m'est marqué en tant que joueur.
Ok. Voilà. Eh ben écoute, on continue ?
On continue, c'est parti.
Alors, en préparant cette émission, en écoutant les musiques que tu m'avais envoyées, j'ai beau être vieux, certes, pas autant que TMDJC, coucou, mais je la connais pas, celle-là.
Thank you.
que c'est que ce jeu obscur là ?
Mais Faxanadu, c'est ultra culte.
Ah ouais ?
Mais ouais. Mais pour tout te dire, c'est un jeu que j'ai redécouvert il y a très peu de temps en fait. Et en redécouvrant ce jeu sur internet, je me suis dit, je connais cette musique, je la connais. Et le thème, je le connaissais par cœur. Je me suis dit, comment ça se fait ? Et en fait, c'est un jeu auquel j'ai joué quand j'étais petit, mais je l'avais totalement oublié.
Et il est sorti sur quel support ce jeu ?
Sorti sur NES. C'est un jeu Nintendo, Faxanadu.
Ah ouais ?
Exactement. Enfin, qui a été édité par Nintendo. Après, je n'ai pas les détails sous les yeux là, mais c'est un jeu qui a été édité par Nintendo en tout cas.
Et sorti sur NES ?
Sorti sur NES.
Et comment ça se fait que tu n'en as pas parlé dans le podcast de la NES ?
Mais tout simplement, comme je viens de te dire, je l'ai oublié. C'est un jeu qui était sorti de ma mémoire et c'est en écoutant la musique, en entendant la musique, je me suis dit, je la connais par cœur cette musique. Qu'est-ce que c'est ? Et c'est là où je me suis un petit peu replongé dedans et j'ai redécouvert Faxanadu comme ça. Et je trouve le thème, il est exceptionnel. Il est tellement marquant que moi, j'avais carrément oublié le jeu, mais j'avais pas oublié la musique. Et c'est ça que je trouve fort dans un thème musical comme ça, qui te permet vraiment de reconnaître un jeu, c'est que la musique est bonne, en fait. C'est que la composition est vraiment marquante. Et c'est pareil sur le deuxième thème qui va suivre, qui m'avait aussi beaucoup, beaucoup marqué.
Et ben alors, on l'écoute tout de suite.
Écoutons.
On est toujours sur Faxanadu, c'est quoi là cette fois ?
Ah, en fait, ce thème-là, c'est le thème quand tu arrives à sortir de la forteresse ou de la ville, je ne sais plus exactement, parce que là, c'est des souvenirs vraiment très obscurs que j'ai, et je me suis pas je n'ai pas retravaillé le truc exprès pour pouvoir simplement le faire avec mes souvenirs, parce que c'est aussi un peu le but de cette émission-là, c'est de parler de nos souvenirs, et bien pourquoi sûr. Ces musiques-là nous ont marqué. Et en fait, je me souviens dans ce jeu que c'était très difficile de sortir du premier endroit, en fait, une sorte de forteresse ou de château, je me souviens plus exactement. Et quand tu arrivais à sortir de ce château-là, tu arrivais sur cette musique-là, qui était en gros la map de l'extérieur. Tu étais à l'extérieur, tu avais des monstres, tu fais combattre des monstres. Et c'était ce thème-là que je trouve, pareil, encore une fois, très, très, très marquant.
En gros, c'est l'ancêtre de Dark Souls.
En fait, au niveau de l'univers, ouais, c'est un peu pareil. Ouais,
déjà
t'as des
tout
monstres,
rentré.
Des châteaux forts, etc. Oui, c'est un jeu dans lequel tu meurs beaucoup, beaucoup, Faxanadu, effectivement. Ouais. Mais bon souvenir. Et en fait, c'est vrai que la musique m'a permis de me remémorer ce jeu-là. Et c'est vrai que, bah, du coup, je trouve ça vachement intéressant de voir à quel point certaines musiques peuvent nous marquer, justement, pour nous remémorer des images, en fait, carrément des images.
D'accord. On continue, on avance ?
Continue.
Allez, c'est parti. Et là, ça me fait plaisir parce que c'est enfin un jeu que je connais.
Ah, ça y est.
On prend sa canne et on y va. Culte au dernier podcast sur la NES, tu nous avais dit ça.
Ouais. Je trouve, pour moi, c'est le jeu sur lequel j'ai pris le plus de plaisir, DuckTales. Et c'est un jeu qui m'a marqué par son gameplay, par le respect de la licence qui est vraiment exceptionnelle sur ce jeu. Et en grande, grande, grande partie aussi grâce à sa bande-son. Là, j'ai choisi le thème de la Lune parce que je trouve que c'est le plus marquant des 5 ou 6 thèmes qu'il y a dans le jeu. Je me souviens plus exactement combien il y en a. Le thème de la Transylvanie est très bien aussi, mais le thème de la Lune, je trouve que c'est le plus... Bah, c'est celui que je préfère, en fait. Et voilà, je veux dire, Picsou sur la Lune, c'est un peu n'importe quoi, avec une musique un peu spéciale, qui du coup, c'est difficile de trouver une ambiance pour aller sur la Lune. Donc du coup, ils ont fait une compo, je pense, totalement... je pense qu'ils avaient carte blanche là-dessus, les mecs, ils n'avaient pas besoin de respecter une licence sonore, et donc ils ont tout créé de A à Z, et ce thème-là, il est vraiment exceptionnel. Et tout le monde s'en souvient. Et d'ailleurs, le remake qu'ils ont fait sur PS3 et 360,
ouais.
ils ont refait le jeu en 2D, super lissé et tout, qui est magnifique, le jeu je l'ai refait, je l'ai replatiné, il est vraiment top. Et ils ont remixé les musiques aussi, ils les ont remis avec des instruments de nos jours, avec une musique un peu plus électro. Et le thème qu'ils ont refait, il est vraiment top aussi. J'invite les auditeurs à aller l'écouter, le remake du thème de la Lune de DuckTales version PS3, qui est vraiment excellent aussi. Donc là, j'ai choisi la version NES parce que c'est celui qui m'avait marqué à l'époque, hein, bien sûr.
Très bien. Allez, on monte sur son Yoshi. Coucou. Et on part sur l'un des meilleurs platformers de sa génération, si ce n'est le meilleur.
Ce son, il est énorme.
Musique culte, jeu culte.
Musique culte, jeu culte, personnage culte, Yoshi.
On aime bien le monter.
On adore monter Yoshi.
Coucou Yoshi.
Non mais ce que j'aime bien dans ce son et en fait dans le sound design général de Super Mario World, c'est que le thème de base, il est vraiment déjà top. Mais quand on monte sur Yoshi, il y a ces fameuses petites percussions qui moi me font penser en fait aux petites jambes de Yoshi qui galopent. Je trouve ça plutôt pas mal foutu. Ouais.
Personnellement, c'est la musique de mon téléphone quand on m'appelle, c'est ça qui est...
avec petites percussions de Yoshi aussi.
Bon, quand c'est à la maison, ça va, mais quand je suis dans la rue ou dans un restaurant, en général, les gens me regardent un peu bizarrement.
Ils disent qu'est-ce que c'est que cette
mais
musique.
Mais bon, faut assumer.
Mais totalement, c'est excellent, c'est un super thème, il est vraiment magnifique, quoi.
Allez, on reste avec Mario, mais cette fois, on descend de Yoshi et on monte sur son kart. Et on part fond de balle.
Super Mario Kart. Que dire d'autre ?
Je l'ai cramé ce jeu, mais vraiment. Hein.
Qui n'y a pas joué ? Les gens qui s'intéressent un minimum aux jeux vidéo ont forcément joué au moins une fois dans leur vie à Super Mario Kart et donc ont entendu ce thème-là. Quoi.
Thème classique, culte là encore.
Thème culte et on sent derrière qu'il y a quand même une qualité sonore sur le processeur sonore justement de la Super
NES,
Nintendo.
Ouais, la Super NES.
Il y a quand même un grain, une identité sonore sur les jeux Super NES et je trouve que cette musique-là aussi, elle illustre bien ça en fait. Et le thème, il est, encore une fois, il est culte parce qu'on l'a entendu des heures et des heures. Juste parce que ça, c'est le thème de l'écran de titre, hein, si je te dis pas de bêtises. Donc c'est le thème que tu entends quand tu allumes Mario Kart.
Et alors, petite question, toi, ton Mario Kart préféré, toute génération confondue, c'est lequel ?
Alors, très honnêtement,
oui.
C'est dur à choisir. J'ai surkiffé Super Mario Kart, bien sûr, mais je trouve que derrière, ils ont fait un Super Mario Kart Super Circuit.
64 ? Ah non, sur GBA ?
Le GBA, je l'ai limé. J'ai adoré le Mario Kart DS, mais sincèrement, en termes de fun, en termes de gameplay, en termes de skill, je trouve que Mario Kart 8 est exceptionnel. C'est un vrai putain de bon jeu.
Vous avez streamé sur Mario Kart 8 ?
Non, on n'a pas streamé Mario Kart 8, mais on s'est tapé des très très bonnes parties en fait en ligne. On était 7-8, je ne sais plus exactement, mais on était nombreux à jouer à Mario Kart 8 et on s'est vraiment trippé sur Internet. Voilà, c'est après Mario Kart Wii qui était quand même...
Ah ouais, non.
Très déséquilibré.
Ouais.
Ils ont rectifié le tir avec Mario Kart 8.
Je trouve qu'il était pas beau, Mario Kart 8. Je l'ai, hein, aussi.
Les motos, tout ça. Moi j'étais pas fan du tout.
Moi, je suis Mario Kart, c'est au kart. Hein,
voilà.
C'est...
Et Mario Kart 8, je trouve qu'il a rectifié le tir. Il est un peu plus posé, mais par contre, il est vraiment ce qu'il est. C'est-à-dire que t'as plein de petites subtilités dans le gameplay qui font que pour taper un record, c'est quand même très très chaud, quoi.
Pourtant, hein, Mario Kart, Super Mario Kart, donc sur Super NES, il y a encore des tournois. Hein.
Et c'est un jeu qui est encore joué, effectivement, aujourd'hui. Mais c'est un jeu tellement culte que. Voilà, je pense qu'il sera un
des. J'ai vu un petit peu des tournois à ce niveau-là sur ce jeu.
J'ai un pote qui joue beaucoup à Super Mario Kart. Alors, il n'y a pas un level comme les champions qu'on veut voir actuellement, mais oui, j'ai vu des mecs qui touchent vraiment le jeu et c'est incroyable.
C'est un Français, en fait, hein, le tenant du titre, je crois.
Ouais, le champion.
Il l'a juste perdu alors, mais on a un Français, j'ai plus son nom en tête. Il est d'ailleurs sur le magazine Le Journal de l'eSport de Florent Gorge.
D'accord. Coucou.
Oui, il était en interview et je l'avais vu une fois sur Game One aussi. Ouais, le mec, il faisait, enfin, lui comme les autres, hein, au niveau, je veux dire, il prend une Donkey Kong. Apparemment, c'est lui le plus vénère.
Ouais, parce que c'est les plus rapides. Ouais.
Les plus durs à lancer, mais une fois qu'ils sont lancés, ils sont inarrêtables.
Exactement. Ouais.
Ouais, c'est, enfin, ils font des bugs, des machins, des sauts,
c'est impressionnant.
Des trucs. Qui,
ils se servent du décor, ils font des petits boosts, machin. Ouais, c'est top. Hein.
Oufissime. Quoi.
Ils sont très forts. Ils sont très très forts. En même temps, jeu de fou, donc forcément derrière, ça envoie quoi en termes de skill.
Très bien, allez, on va continuer, parce que sinon, vu qu'on veut que l'émission dure pas plus d'une heure maximum, encore une fois, on reste dans un classique du genre, on prend son bouclier, son épée, et on part pour l'aventure.
Ça te donne pas envie de lancer le jeu là ?
Bah étant donné que Zelda 3, je l'ai jamais fini. Pouf.
Ah mais tu l'as commencé quand même.
Oui, j'ai joué à l'époque, bah chez mon pote Cyril encore une fois. Je l'ai racheté sur Wii.
Ouais, moi maths. Aussi.
Je l'ai même transféré sur Wii U pour l'avoir directement sur Wii U et tout. Mais,
pour jouer sur le gamepad, ouais.
Ouais, voilà, mais rien à faire.
Ah, mais il faut le relancer.
Je bloque vachement vite en plus. Hein, genre ouais. Au pendentif, j'en ai un et après c'est mort. Hein.
Ah, il est pas facile le jeu. Hein. Mais en fait, tu vois, c'est pareil. Quand tu commences ce jeu, tu tombes sur, donc, sur Link qui se réveille, machin. Il sort de sa maison. Faut qu'il aille sauver la princesse, etc. Direct, hein.
Ouais.
C'est direct dès le début du jeu. Il pleut, t'as cette musique, t'as aussi une identité sonore. Pas ok au niveau de la musique, au niveau des...
C'est un peu angoissant, là, cette.
Ouais,
départ,
c'est une musique
démarre,
un peu sombre. C'est ouais. Pas le thème classique de Zelda que tout le monde connaît. Et c'est pour ça que je trouve que cette musique-là, elle est excellente parce qu'elle impose une ambiance, en fait. Et une ambiance un petit peu sombre, voilà, où il pleut, et c'est exactement le début du jeu, quoi.
Puis c'est vrai qu'au début, tu sais pas ce qu'il faut faire. Tu vois, les gardes, ils te bâchent, ils t'envoient chier.
Exactement.
T'es là, tu tournes à droite, à gauche, tu réussis à dégoter une épée, t'es là, bon, qu'est-ce que je fais, je vais où, enfin.
Mais l'ambiance est un petit peu sombre sur ce Zelda-là, et voilà. Et cette musique-là illustre bien aussi l'ambiance du jeu.
Très bien. On y va, on avance.
Continuons, restons sur Super NES. J'aime bien cette console.
Allez, un gros shoot de l'époque, même si c'est pas sur la Super NES qui était la meilleure version.
C'est vrai.
C'était sur PC Engine, mais ça reste une pierre angulaire du jeu vidéo, à coup sûr. R-Type parce que Super Nintendo, donc tout est super.
C'est ça. Et c'est un super jeu d'ailleurs.
Et c'est un super jeu effectivement. Même si c'est pas la super version. Hein,
parce non, parce qu'effectivement, il y avait quand même pas mal de ralentissements sur le jeu. C'est dommage, mais moi j'avais la Super NES, donc j'avais cette version là. Et c'est un jeu qui m'a vraiment marqué aussi. Et pour la deuxième fois, je pense que ma mère pourra te fredonner cette musique-là, tellement elle l'a entendue.
Bon, bah, le coucou, premier niveau.
Le premier niveau de Super R-Type, voilà, encore une fois, jeu culte.
Maman, à qui on fait des bisous. Hein.
Voilà. Bisous, bisous. Je sais pas si elle écoutera, mais je lui dirai, tiens.
Mais c'est vrai que c'était un gros shoot'em up de l'époque et très, très dur, là.
Très dur, mais.
Et là,
mais
tout, voilà. On peut dire tout rentre dans Beg, mais je crois que tout rentre dans tout le monde.
Dans
là,
tout
par
le
contre.
Monde.
Il
oui,
rentrait
oui.
Dans tout le monde, ouais. Ce jeu.
Mais super jeu, super souvenir, super musique, super R-Type, quoi.
Super R-Type. Et bah, décidément, tu as choisi que des jeux légendaires, donc on reste dans le shoot'em up légendaire.
encore une fois, on entend la qualité du processeur sonore de la Super NES.
Fait par Sony.
Fait par Sony. Le processeur.
Ken Kutaragi.
Ah bah voilà.
Le créateur de la PlayStation quand même.
Exactement, Ken Kutaragi. Petit bisou Ken si tu nous écoutes. Non, pas Ken Ballet, Ken Kutaragi. Mais je pense pas qu'il nous écoute lui. Hein, ça m'étonne.
Lui encore moins que Ken Ballet. Quoi, ce serait un miracle.
Oh oui, effectivement. Mais du coup, non, ce que j'aime bien dans ce thème-là, c'est le thème un peu rock. On entend les différents instruments, la guitare électrique, la partie de basse derrière. Et c'est là où, justement, le processeur fait son taf parce que c'est très. On entend vraiment la différence entre les différents instruments. Et puis le thème, il est magnifique, quoi. T'écoutes ça, t'as envie de prendre ton Arwing et de pouvoir aller péter de l'extraterrestre, etc.
Puis pour l'époque, en 3D, c'était.
En 3D, de la vraie 3D.
Oufissime, hein, avec la puce FX.
La puce Super FX, effectivement. Super FX, pardon. Qui était intégrée dans la cartouche. Et quand tu retournais la cartouche, tu voyais en dessous que tu avais deux petites barres supplémentaires. Bah c'était ça, c'était la petite puce FX.
Je crois que le jeu coûtait une blinde, hein, tu le sentais passer à la caisse.
Ça, franchement,
hein.
Sincèrement, je m'en souviens plus, parce que moi, je l'avais le jeu, mais je me souviens plus du tout combien je l'ai payé.
C'était tes parents qui payaient surtout.
C'était ma mère qui payait, effectivement. Mais peut-être que je l'ai pas eu. Je l'ai peut-être eu quelques années après, hein, c'est possible. Mais pareil, jeu que j'ai joué des heures et des heures à ce jeu, notamment encore une fois au premier niveau, que je trouvais absolument magnifique et qui était un jeu, bah, comme tu dis, légendaire, quoi.
Oui, clairement. Ouais. Enfin, moi, bon, après, je me rappelle que j'y jouais en internat parce que j'ai un pote bourgeois qui ramenait la console et au foyer le soir, la salle du foyer, là. Et je le regardais, mais bon, moi, à l'époque, j'étais pas trop chaud. Je me suis rayé plus tard. Très bien. Eh bien, j'espère que vous aimez les bananes et la jungle, au moins.
Encore un jeu culte. Mais la Super NES, elle a beaucoup de jeux cultes en même temps. Hein.
Oui, bah, comme la NES, hein, effectivement. Ouais. Hein, c'était l'époque où ils régnaient sans.
Ouais,
c'était les boss avec la Sega.
Ouais, Sega quand même. Mais c'est vrai que Donkey Kong, encore une fois, c'est un jeu hyper marquant par rapport à ses graphismes en CG.
Silicon Graphics,
non, je me souviens plus, effectivement.
C'était un jeu rare.
Mais c'était un jeu voilà, à moitié en image de synthèse, au niveau des. Enfin, pas en image de synthèse, mais qui avait en tout cas un côté un peu plus réaliste que les anciens jeux.
Pas de la 3D replaquée sur la 2D, des personnages montés en 3D et plaqués après.
C'est ça. T'avais une sensation de 3D, effectivement, dans le graphisme. Mais effectivement, ce qui a aussi marqué ce jeu, c'est sa bande-son. Alors là, on parle juste de l'intro du premier, mais toute la BO des 3 Donkey Kong Country est exceptionnelle, quoi. Et j'aime bien cette intro-là parce qu'au début, quand on allume la console avec le jeu dedans, on voit le petit vieux, donc Cranky Kong, qui fait tourner son tourne-disque, là, et qui a cette petite musique. Et derrière, on a donc le côté un petit peu plus hip-hop qui arrive avec Donkey Kong qui fait des petits bruits de singe derrière. Je trouve vraiment bien, bien fait ce thème. Il est vraiment cool.
Et c'était... Le début de la musique, c'était l'introduction du podcast de Gamerside, leurs anciennes intros, puisqu'ils ont changé maintenant, qui était très sympa, donc encore une fois.
Donc coucou Gamerside.
Un grand podcast qui, je sais pas s'ils nous écoutent, mais
c'est
un grand podcast, des grands podcasteurs. Eh bien, on continue, c'est pas toi qui voulais lancer la musique suivante ?
Eh ben, on continue sur Donkey Kong Country numéro 3.
À côté.
Sérieux, t'es passé à côté de Donkey Kong Country 3, quoi.
Bah ouais, moi j'étais pas trop plateforme à l'époque, hein, hormis Super Mario World, après... Ouais. J'allais dire, hormis des classiques du genre, mais ça, Donkey Kong Country 1, 2 et 3 sont des classiques du genre, mais... Oui.
Moi, c'est mon préféré, moi, Donkey Kong Country 3. C'est celui que j'ai
préféré. Plus que le premier ?
Ouais, le premier m'avait beaucoup marqué, J'ai moins aimé le 2, bizarrement. Alors, pour le coup, apparemment, les fans, ils adorent le 2. Moi, mon préféré, c'est le 3, parce que je trouve qu'ils ont changé les héros. On a un gros bébé qui s'appelle Kiddy Kong, qui est avec Dixie, et je trouve que les deux, le 2 se complémentent bien, en fait. Et cette musique-là, c'est la musique de la forêt, donc avec des arbres. C'est une ambiance un petit peu plus sombre, et je trouve que le son est très... très profond, en fait. Je sais pas comment expliquer ça. De toute façon, vous l'avez entendu, hein, vous ferez votre propre avis. Mais moi, cette musique m'a marqué par rapport à ça. C'est encore une fois la qualité sonore de la Super NES qui fait la différence là-dessus pour instaurer une ambiance. Et l'ambiance de la forêt, je trouve qu'elle est vachement, vachement bien retranscrite, en fait.
D'accord. Oula, attention au câble. J'ai adoré le prochain jeu. Ça a été l'un de mes premiers jeux que j'ai eu sur cette machine. On part nettoyer les rues à coups de couteau, barres de fer et autres armes. Et tout ça avec l'aide de la police. C'est une dinguerie. Moi, à l'époque, quand je l'ai eu, c'était une dinguerie. Street of Rage, quoi.
Moi, je l'avais pas, ce jeu.
Ah ouais ?
J'avais pas la console.
Moi, écoute, tu veux rigoler, j'avais acheté ma Mega Drive avec un pote. On avait acheté Golden Axe. Ouais. Et sur les petites annonces du magazine Console Plus, j'avais été voir petites annonces à la fin du magazine. Donc, parce que moi, j'étais pro Console Plus. Parce que, désolé, Clad, Joypad, c'est de la merde. Enfin, c'est pas que c'est de la merde, c'est pas vrai. Mais c'est bien. Console Plus, c'est le top du top. Et dans une petite annonce, j'avais répondu, j'avais envoyé ma petite cartouche. Avec mon jeu Golden Axe, et j'avais reçu Street of Rage. La claque. La ouais, claque.
Il était ouf, le jeu. Il était dynamique, il était beau.
Ouais, ouais.
Et pour une fois, sur la Mega Drive, on a un son de top qualité, quoi.
Ouais.
Et comme sur un petit peu le même comparatif qu'avec Donkey Kong, c'était plus sur Donkey Kong que je disais ça, c'était sur Starwing, on reconnaît les différents instruments. T'as des percus, t'as de la basse, t'as un thème qui est magnifique. Moi, je trouve que ce thème, il est fun, en fait.
Puis chaque niveau sont bien.
Et chaque niveau est bien, et t'as vraiment une identité sur chaque niveau. Mais je trouve que ce thème, il est un peu fou, il est un peu space, mais c'est une vraie compo musicale, en fait, et c'est ça où le compositeur, il s'est trippé, ça s'entend, en fait. Le thème, il est ultra dynamique, et t'as envie de jouer à Street of Rage en entendant ce son-là, quoi. C'est génial.
J'ai oublié le nom du compositeur, mais il l'est. C'est l'un des seuls jeux, je crois, hein, où, genre, là, pour l'époque, attention, pas aujourd'hui, moins déjà, mais d'accord. À l'époque, à l'écran start, tu as en bas son nom, mec.
D'accord, ouais, bah oui, en même temps, ces compos, elles sont tellement, tellement stylées, quoi.
Et puis, bah voilà, les cassés de la gueule dans la rue, on attendait, parce que bon, sur Super NES, il y avait le Final Fight qui.
Oui, effectivement. Il déboîtait
bien, hein. On attendait la réponse de Sega, et quelle réponse, quoi.
Ah ouais, mais la réponse de fou malade. C'est, je pense que le Street of Rage est peut-être le plus culte de tous ces jeux-là, quoi.
Qu'est-ce que t'en penses? Les Beat'em All, ouais. Il y avait les deux écoles, quoi, après Final Fight et Street of Rage. Je sais que Neo Geo, à l'époque, il avait sorti quelques temps après Mutation Nation.
Ah, celui-là, je connais pas.
Pareil, c'est un Beat'em All dans un univers, par contre, là, post-apocalyptique. Et ils avaient essayé de concurrencer, et pourtant qui était beaucoup plus beau, beaucoup plus tout, mais c'était pas pareil, quoi. Il manquait l'ambiance, il y avait une ambiance quand même dans Mutation Nation, mais Street of Rage, c'était
fou.
Plus de combos, des coups, enfin.
Ah, c'était péchu, en fait. C'était ça. Ouais, c'était vraiment, t'avais vraiment l'impression de donner des vrais coups. Non, mais le jeu était.
Puis les rues, top. Tu sentais les rues un peu mal famées, quoi. Ouais. Vraiment dans le jeu quand
t'étais
tu jouais.
Tu te sentais pas en sécurité quand tu jouais à ça.
Ouais, voilà. Ouais, t'avais envie de nettoyer les rues,
ouais,
quoi.
Ouais, c'est ça. Et pour reparler donc du coup d'ambiance, là on va parler d'autre chose. On reste dans une ambiance mais qui n'a rien à voir du tout. Et on va parler d'un jeu ou d'une série de jeux qui moi a carrément marqué mon parcours de gamer. Et en commençant par ce premier jeu là et ce premier stage de ce jeu, je vous laisse écouter.
Thank you.
Super Castlevania 4. C'est tout ce que j'ai à dire.
Un jeu de lancement en plus, hein ?
Alors ça, je n'en sais rien.
De la Super NES, je crois.
J'ai eu le jeu beaucoup plus tard.
D'accord.
Encore une fois. Mais par contre, alors là, c'est, je pense, le premier jeu qui m'a fait ça. Je lançais le jeu pour écouter la musique.
Ah ouais, carrément.
Ah ouais, non, mais t'entends ce thème de fou.
Limite, tu jouais même pas, quoi.
Je mettais la musique, j'ai trouvé ça exceptionnel, quoi. La qualité de son, le thème, c'est dynamique. C'est... Puis alors, en plus, quand tu joues, c'est vrai que c'est encore mieux, parce que c'est le premier jeu auquel moi j'ai joué, où tu pouvais changer de plan, tu passais derrière les grilles. Donc du coup, tu passais au deuxième plan. Après, tu pouvais revenir au second plan pour finir le niveau. Jeu de fou, bande-son de fou, gameplay de fou. Pour moi, c'est peut-être mon jeu Super NES préféré, quoi.
Du grand Konami, comme dirait Yoshi.
Ouais, mais à l'époque, c'était vraiment Konami. Du grand Konami, quoi.
C'est après.
Après, ça a changé, effectivement.
Konami le R.
Effectivement. Et donc là, on passe sur le niveau. On reste sur Castlevania 4, mais on va écouter le niveau de la Tour de l'Horloge.
Explique-nous cette chanson. Qu'est-ce qu'elle a de particulier pour toi ?
En fait, c'est un niveau culte dans les Castlevania, la Tour de l'Horloge. C'est toujours un niveau que tu es sûr que tu vas avoir dans Castlevania.
D'accord.
Et l'ambiance générale du jeu, la bande-son du jeu est tellement exceptionnelle que l'ambiance de ce niveau-là, de la musique, m'a fait penser, quand vous entendez un petit peu, au plancher qui grince, en fait. Ils ont réussi à retranscrire une ambiance un peu de bois qui grince, de vieillerie. On a vraiment l'impression d'être dans cette fameuse Tour de l'Horloge, quoi.
T'entends tout ça, toi, t'entends le bois qui grince.
Mais moi, j'entends cette musique-là, je voyage, je suis à fond dans l'univers Castlevania avec le côté un peu gothique et tout. Non, c'est absolument génial, quoi. Le mec a composé cette musique, c'est respect éternel.
D'accord. D'accord. Je reçois un tweet. Excuse-moi.
D'accord. Non, mais tu as le droit de recevoir des tweets.
Autant pour moi. Et on continue toujours dans la même saga que je connaissais pas du tout celui-là, du moins pas sur cette console-là. Je pensais qu'il était sorti que sur PC Engine.
Ah, alors en fait, il y a eu un remake qui est sorti sur Super NES.
Et on l'écoute tout de suite.
Allons-y.
C'était vraiment du grand, grand Konami à l'époque. Hein. Vraiment, on se demande même qu'est-ce qui s'est passé entre temps.
Je pense qu'ils
ont chuté comme ça. Parce que
c'est leur meilleure période. Attends.
Moi, j'avoue que je connaissais que sur PC Engine. Je sais qu'à l'époque, sur PC Engine, c'est l'un des meilleurs, je pense, 16 bits.
C'est le plus reconnu, je pense, aujourd'hui.
16 bits. Et j'étais étonné de voir quand tu m'as envoyé ta liste de musique qui était sortie sur Super NES. Quoi.
En fait, c'est pas vraiment Dracula X qui est sorti sur Super NES. C'est Castlevania Vampire's Kiss, qui est en gros un remake de Dracula X. Et donc ça, c'est la musique du premier stage, quand on a le village qui est en feu derrière, donc avec les déformations des flammes, le stage est magnifique, la musique est magnifique, c'est un thème qui est récurrent dans la série Castlevania, et là je trouve que cette compo-là, dans cet arrangement-là, est exceptionnelle, et encore une fois, à l'époque, m'avait marqué, c'était le deuxième Castlevania que je faisais sur Super NES, et encore une fois, les musiques m'avaient vraiment marqué, quoi.
Et est-ce que tu avais testé la version PC Engine, du coup ?
Je l'ai testé plus tard, en fait. Je l'ai testé plus tard sur PSP, sur le remake Rondo of Blood, machin, je sais plus comment il s'appelle ce jeu.
D'accord, il est sorti
sur PSP. Ouais.
Sur PSP en remake.
Ouais.
D'accord,
en remake. Ouais.
Ok.
En 3D d'ailleurs. Enfin en 3D, en graphisme 3D mais gameplay 2D.
D'accord.
Voilà. Mais super jeu, super ambiance, super musique, encore une fois des super souvenirs quoi.
Eh bien écoute, on continue encore avec un grand jeu de la PS1. Je suis passé complètement à côté. Godclad serait là, me dirait que je ne me respecte pas. Mais fuck, il n'est pas là. Donc je fais ce que je veux. Je ne l'ai pas fait. On continue.
Thank you.
fait, je dois t'avouer un truc.
Ah, vas-y, confession.
J'ai triché.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que ce thème-là, il vient de quel jeu ?
Symphony of the Night.
Alors oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, ça...
Pourquoi oui, pourquoi non ?
Pourquoi non ? Parce qu'en fait, c'est le thème du boss final de Dracula X, donc de Dracula.
D'accord.
Mais lorsque tu commences Symphony of the Night, tu commences avec Richter Belmont et tu te tapes contre Dracula. Tu revis le boss final de Dracula X.
Du précédent, en fait, c'est le précédent opus.
Bah, exactement.
Opus.
Et après, bon, bah, tu as l'intro du jeu et tu incarnes Alucard et tu commences Symphony of the Night. Mais en fait, ce thème-là, c'est le thème du boss final de Dracula X. Mais vu que c'est le premier ennemi que tu rencontres dans Symphony of the Night, je t'ai dit que c'était du Symphony of the Night. Mais c'est vrai, en fait, c'est du Symphony of the Night aussi, pour le coup.
D'accord. Eh bien, tu veux d'autres choses à rajouter ?
Oui, non, je voulais juste dire qu'en vérité, la bande-son de Symphony of the Night est exceptionnelle. Les vrais compos de Symphony of the Night sont exceptionnels aussi, mais on les écoutera peut-être dans un futur Sandmax ou un autre jour. Faut en garder sous le coude. Faut en garder.
Ah, surtout que t'en as déjà mis pas mal dans la liste.
J'en ai beaucoup,
là,
donc on va continuer.
T'as fait ton Inaman, là. Allez, un peu de douceur, ça fait pas de mal pour un jeu beau auquel, encore une fois, je n'ai pas joué. C'est que cette flûte traversière là. Comme à l'époque.
Magnifique ce thème, encore une fois. Tu as reconnu la flûte traversière au travers du processeur sonore de la Super Nintendo.
Enfin, à l'époque, quand je voyais des clips avec une nana ou un mec qui faisait de la flûte traversière, c'était en général des gros perchés quoi. Donc,
le thème il est très marquant. Alors, ça serait faux de dire que c'est un thème qui m'a marqué à l'époque, puisque FF6 n'est jamais sorti en Europe. Enfin, en tout cas. Pas sur Super Nintendo, hein, on l'a eu, mais plus tard sur PSP ou sur smartphone, etc. Donc moi, c'est un jeu qui m'a plutôt marqué, enfin une musique, pardon, qui m'a plutôt marqué sur 3DS, sur le jeu de rythme Final Fantasy.
Je connais pas.
Theatrhythm Final Fantasy.
D'accord.
Et alors oui, bien sûr, j'ai rejoué à Final Fantasy VI en émulation, machin, etc., comme beaucoup de monde qui est fan de Final Fantasy. Mais ce thème-là, je l'ai vraiment découvert en profondeur. Dans ce jeu de rythme sur 3DS, qui pour tout fan de Final Fantasy, il faut absolument faire ce jeu-là, donc Theatrhythm Final Fantasy, qui est un jeu qui à lui tout seul regroupe je sais plus combien de centaines de musiques de Final Fantasy, et c'est un jeu exceptionnel. Et pour en revenir à FF6, qui est considéré comme par beaucoup de fans comme le meilleur épisode de la série, c'est un jeu que moi j'ai jamais terminé.
C'est pas le 7 ?
Beaucoup de gens vont te dire que le meilleur d'FF c'est FF6, c'est pas FF7.
Ah d'accord, moi j'étais persuadé que c'était
alors,
le 7. Quoi.
En Europe, t'as beaucoup de gens qui vont te dire que c'est le 7, puisque c'est le premier qu'on a découvert.
Ouais.
C'est le premier qu'on a découvert, nous, mais les vrais fans, plus
du moins,
et dur,
officiellement découvert, parce qu'en fait, en import, ceux qui achetaient déjà en import à l'époque étaient...
Ah oui, bien sûr. Mais FF6 est considéré par les fans comme le plus grand des FF. Bon, moi, je considère que c'est le 12, mais bon, après, c'est un autre débat, ça. Restons sur FF7 et allons nous balader un petit peu du côté chez Rouge 13, pardon. Le fameux.
Donc après la flûte, c'est le synthé maintenant.
Ouais, moi je trouve que ça ressemble aussi à de la flûte. Hein.
Encore ?
Ouais.
Mélange là.
Mais bon. Toi t'as pas joué à FF7 ?
Ah non, mais moi en fait j'en ai fait aucun.
M'énerve. Non, alors en fait pour expliquer, ça c'est le thème donc de Cosmo Canyon, qui est le village de Rouge 13, qui est un cobaye en fait, qu'on a été délivré, donc Clad et toute son équipe qui ont été délivrés.
Clad ?
Oui, c'était lui. C'est la ville matérialisée, donc enfin modélisée, plutôt top.
D'accord. D'accord,
c'est tout. Non, c'est exactement lui. Donc ils ont été le chercher dans les locaux de la Shinra parce que c'était un cobaye Et il a été, il était pas, comment dire, il réagissait pas au traitement qu'on, enfin au traitement, aux expériences qu'on a fait sur lui. Donc c'était un cobaye un peu particulier. Et donc il avait appelé Rouge 13 pour ça, mais son vrai nom c'est Nanaki, ce personnage-là. Et tu l'apprends pendant cette séquence-là quand tu arrives dans son village avec ce fameux thème musical.
D'accord. Apparemment, FF7 est un jeu qui vous a beaucoup marqué parce que tu en parles. Ouais. Clad en a parlé. Inaman également. Alors, je vais te poser la même question que j'ai posée à Clad. Quand t'as joué au jeu, tu venais de te faire larguer comme Inaman et du coup, tu t'es plongé dedans ou pas du tout?
Pas du tout. En fait, si tu veux,
c'est... T'avais complètement lâché tes études comme Clad aussi.
Mais c'est vrai que c'est le premier gros RPG que j'ai fait.
Bah, comme Inaman et Clad, hein, c'est voilà. Pareil pour eux, a priori. Hein.
Enfin, le premier vrai JRPG en tour par tour, etc., c'était le premier. J'ai passé des heures et des heures dessus. Je l'ai acheté parce que là, pour le coup, c'est un jeu qui avait vraiment buzzé à l'époque dans la presse. Tout le monde en parlait, c'était un phénomène.
Tu l'as acheté, mais tu savais pas trop.
Je savais pas ce que c'était.
Vraiment, parce que tu. Ouais, ça m'arrive aussi d'acheter des jeux. Des fois, on te dit si dans la presse, si t'achètes telle console et pas tel jeu avec, c'est pas la peine d'acheter la console, quoi.
Et du coup, merci les magazines de l'époque, même si la traduction française était complètement ratée.
J'imagine que ça devait être Console Plus, le magazine.
Je ne sais plus. Non, moi je lisais Playmag, mais bon, autre chose, quoi. Un autre magazine encore. Et du coup, jeu que j'ai acheté un peu entre guillemets à l'arrache sans rien savoir véritablement dessus, et putain, alors la meilleure claque de fou. Ouais. Mais c'est pas mon FF préféré sur la trilogie PlayStation. D'ailleurs, on va écouter un petit peu ce que j'aime bien. À côté de Final Fantasy VIII.
Bah le seul que j'ai acheté en fait dernièrement, c'était sur PS Vita sur tes conseils. En fait, il est tout en anglais, ça m'a gavé. Donc
FF Tactics.
Je sais plus lequel c'était là que tu m'avais conseillé. Là. C'était un remake PS2 ou PS1.
Oui, ça devait être FF Tactics, je pense.
Je l'ai effacé. J'ai joué 3 secondes et j'ai effacé.
Enfin, en tout cas, FF8, ce thème-là parlera à tous ceux qui ont fait le jeu, évidemment, puisque c'est le thème de la BGU, la Balam Garden University, qui en fait une université dans laquelle étudient les protagonistes de FF8, dont le héros qui s'appelle Squall. Et on apprendra par la suite que cette BGU en fait deviendra un véhicule volant avec lequel on peut se balader partout sur la map. FF8 est pour moi le meilleur FF de la PS1. Je le dis, merci, au revoir.
Très bien, et bien maintenant on monte dans son vaisseau et on part à la conquête de l'espace.
Celle-là, hein.
Encore un jeu que je passe à côté, mais en l'écoutant là, j'avoue que c'est assez ouf, quoi. Et surtout pour le début, enfin pour l'ère PS1 où c'était pas non plus, c'était le début du CD, quoi, finalement.
Ouais, et là, il y avait une vraie orchestration, il y a une vraie composition derrière, avec, je suppose, un vrai orchestre. Hein, j'avoue, je me suis pas renseigné là-dessus, mais cette chanson-là, cette musique-là, moi, je l'ai découverte dans un CD de démo, parce qu'à l'époque, quand tu achetais des
PlayStation Magazine, tout
voilà,
ça,
les PlayStation Magazine, etc., tu avais un CD de démo dessus, et il y avait la démo du jeu Colony Wars. Qui est un jeu un space opéra, en fait. T'es dans l'espace, tu tires sur des vaisseaux ennemis, tout ça. C'est un jeu qui, moi, dans mes souvenirs, paraît tellement épique que j'ose même pas y retoucher par peur d'être déçu.
De te flinguer tes souvenirs.
Voilà, donc j'ai surtout pas envie de retoucher à ce jeu-là. Je veux garder dans ma mémoire ce jeu épique, magnifique, que je trouve exceptionnelle, en tout cas dans mes souvenirs. Et effectivement, cette musique me fait penser à une musique de film. Voilà, elle est magnifique. Et en fait, c'est la musique de fin du jeu, de la cinématique de fin du jeu. Voilà.
Ok.
Et donc, du coup, on a fini avec la PS1. On va passer sur la PS2 avec un jeu culte et encore du... Non, je dis rien, écoutez. Qu'au bout d'un moment, il faudra quand même rendre hommage au grand compositeur qui est Nobuo Uematsu, parce que quand tu entends ce thème-là, il est
juste
magnifique.
Envie de t'ouvrir les veines.
Non, pas du tout. Je le trouve beau, je le trouve posé.
Tu fais comme Inaman, des belles musiques, mais on a envie de s'ouvrir les veines à chaque
non,
fois.
Non, mais c'est moi, je le trouve pas dépressif ce thème. Je le trouve juste calme et beau en fait, tout simplement. Et c'est vrai que moi, j'ai été voir le concert Final Fantasy l'année dernière.
Ah ouais?
Ouais. Et monsieur Nobuo Uematsu était là. Et ça fait vraiment plaisir de voir un mec comme ça qui a fait la bande-son de, je pense, 95% des FF. Il y en a un ou deux qu'il a pas fait. Mais les compositions de ce mec-là, elles sont exceptionnelles. Et notamment ce thème au piano, qui, je pense, est le thème le plus connu des Final Fantasy, avec peut-être le thème de Sephiroth aussi, que Inaman avait mis dans son Sandbox.
Ouais. D'accord, donc là, au moment où nous enregistrons, FF15 n'est pas encore sorti.
Non.
Mais j'imagine que tu l'attends, parce que quand ce podcast paraîtra, il sera sorti, normalement.
Oui, oui, oui.
Tu seras comme un dingue dessus, j'imagine.
Ah, bah, je serai en train de geeker dessus, ça, c'est sûr et certain. Oui.
Voire même de streamer, peut-être.
Ah, oui, c'est sûr. Ça, c'est prévu.
D'accord. Stop! Stop!
Oh,
maintenant, c'est mort. C'est la bagarre. Coucou TMDJC, car Rio a été créé pour TMDJC. Cette musique est complètement ouf, mais en fait, toute la bande musicale du jeu est ouf, finalement, de Street 3.3.
3.3, c'est vrai qu'il y a une bande-son qui est exceptionnelle aussi. Et ce que j'aime bien, c'était... tu vas m'arrêter si je dis des conneries, hein. Mais tu avais donc un thème de base, et derrière, quand tu étais dans le round décisif, tu avais la musique qui était modifiée, et là, enfin, qui était modifiée, qui te rajoutait des petits thèmes sonores. Et en fait, dans celle-ci, la partie qu'on vient d'écouter, c'est la partie donc du niveau du stage de Ryu,
voilà.
Suzaku's Castle. C'est les petites notes qu'on entend, ça, c'est dans le round décisif. Peut-être que TMDJC pourra corriger ce que je dis.
Oui, je pense qu'il nous corrigera sur Twitter, d'autant que Ryu a été créé pour TMDJC, pour qu'il joue avec.
Voilà, bah oui, c'est ça.
Parce que la dernière fois que je l'ai vu, il me dit, ouais, putain, ils m'ont nerfé mon Ryu dans tel jeu, j'étais mort de... Mon Ryu, j'ai bien aimé le
Ryu. Ah
ben
c'est le sien, faut pas y toucher, hein, voilà. Mais du coup, ouais, non, thème musical de folie, ouais. Bande son de fou, jeu de fou, le meilleur street de tous les temps, voilà.
Je sais pas si c'est le meilleur, parce qu'après il y a aussi le côté nostalgique. Maintenant, ça fait un certain temps qu'il est sorti, mais oui, gros jeu, il n'y a pas de souci. Si c'est pas le meilleur, il est dans le top 3, à l'aise.
Complètement
avec Street Fighter The Movie.
Ken, il aime bien ce jeu.
C'est parti, on s'arrête. Je vais reprendre comme la dernière fois. On met la musique groovy, on met ses rollers et on part graffer à nouveau.
Shinigami. Cette bande-son, elle est exceptionnelle.
Quel jeu, encore une fois. Bah, déjà, Clad l'avait mise également dans ses musiques. Par chance, t'as pas pris la main, parce que Clad, t'as shippé la musique de Tomb Raider qu'on a
c'est
pas
vrai.
Pu mettre.
Petit coquin.
Mais oui, effectivement, ouais, c'est... Est-ce qu'il faut encore réexpliquer quel est le principe de ce jeu ? Peut-être ouais. Pour ceux qui nous découvrent, allez, rapidement, ouais. Explique.
Tu veux que je te le fasse ?
Alors, en deux secondes, vas-y.
On a des rollers, il y a des graffitis, il y a de la police, on évite la police et on tague sur les murs.
Et on marque son territoire.
Voilà, c'est ça.
Avec un style graphique cel shading, c'est l'un des premiers jeux de mémoire
cel shading. C'est, je pense, le premier jeu qui a démocratisé, on va dire, le cel shading en 3D.
Oui. Voilà. Et
bande musicale de fou. C'est-à-dire que si Clad avait pris 5 ou 6 musiques de Jet Set Radio, j'aurais quand même pu en trouver une, donc il n'y a aucun problème. La bande-son est tellement folle sur ce jeu. C'est un jeu culte aussi. Enfin bon, incroyable. Mais du coup, tu trouves pas que les rollers, c'est un peu lent ? Tu voudrais pas qu'on prenne plutôt un taxi ? Ce jeu me fait considérer la Dreamcast comme étant la meilleure console de tous les temps. Alors, c'est pas le seul.
Alors,
hein.
La meilleure console de tous les temps, je serais plus nuancé là-dessus.
Non,
par
non.
contre,
non,
c'est la console d'arcade.
Incroyable.
C'est-à-dire les jeux d'arcade qui étaient portés dessus, parce que la Naomi, c'était quelque part une Dreamcast. Hein.
Exactement.
C'était vraiment, tu voyais le jeu d'arcade, tu savais qu'il allait sortir sur Dream et ça allait être le même. Il n'allait pas avoir de concession graphique.
Et bah, tu vois, Crazy Taxi, c'est pas un jeu que j'ai découvert sur Dreamcast. C'est un jeu que j'ai découvert en arcade avec la borne. Est-ce que tu te souviens de la borne ?
Alors, je crois qu'il y avait plusieurs versions. Hein. Tu avais la version juste le volant et la pédale. Et
où tu jouais debout.
Voilà.
Et bah, moi, c'est sur cette version-là que j'ai joué. Je trouvais la borne géniale, je trouvais le jeu fou avec le vent et tout. C'était j'ai pris une
t'avais
claque
le,
en fait
le petit siège là
le petit en fait c'était
barre, là,
un truc assis debout
voilà.
Tu t'appuyais dessus
et je me demande s'il n'y a pas une autre version un peu plus de luxe.
Alors
je
ça,
suis pas sûr
ça pour
je,
le coup je sais pas
je vais pas m'avancer
mais moi c'est cette version
moi
là
aussi,
à laquelle j'ai
là.
Joué et quand la Dreamcast est sortie j'ai vu qu'il y avait Crazy Taxi dessus non j'étais obligé c'est un jeu de fou, une bande son de fou, donc Offspring,
ouais.
Voilà, des vraies chansons, des vraies musiques, du punk, du côté un peu, on s'en fout, on fonce dans le tas, on
ah ouais,
y va à fond.
On prend les tremplins, on fait flipper les grand-mères à l'arrière de la bagnole,
voilà,
les
cheveux les au
femmes
vent.
Enceintes, on y va quoi.
Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là où moi j'ai perdu mes cheveux. Voilà.
C'était pas avant ?
Non, c'était cette période-là, à cause du vent, du taxi, quoi. On allait tellement vite. Et donc du coup, là, on va partir sur un truc un peu plus posé, un jeu PC, le jeu PC. Je suppose que vous avez tous compris les paroles de cette chanson.
Non, moi j'ai juste envie de m'ouvrir les veines à nouveau, mais oui, vas-y, pour ceux qui ont envie de comprendre les paroles, vas-y.
Non, mais en fait, c'est de l'elfique, et on parlait bien de World of Warcraft.
Coucou donc, Gabi, c'est un pote à
d'accord.
moi qui est fan de World of Warcraft.
Donc c'est le thème musical des elfes de sang. Alors c'est le thème que tu entends derrière, le thème musical, c'est le thème des elfes de sang, donc qui à l'époque est sorti sur l'extension Burning Crusade, donc la première extension de World of Warcraft. Et cette chanson, enfin la version chantée en fait, c'est la complainte des bien-nés pour les fans de WoW. En fait, on l'entend pas dans le jeu, elle est sur la bande originale de la version collector. Mais en tout cas, le thème musical, c'est le thème musical des elfes de sang qui est pour moi la plus belle race au niveau esthétique dans World of Warcraft.
D'accord.
Voilà.
Tout simplement.
Voilà, tout simplement, je trouve que cette musique, elle est magnifique, quoi,
voilà,
hein, tout simplement.
Fin de l'histoire,
elle est
superbe. Il n'y a pas à tortiller.
Non, voilà, parce qu'en fait, il faudrait 12 podcasts, pour parler uniquement de WoW. Donc voilà, juste cette musique est magnifique et voilà.
Allez, on retourne dans l'univers de Final Fantasy. encore un jeu que j'ai pas fait, mais j'avais failli l'acheter à l'époque dans un McDonald's.
Ouais.
Et j'avais bien précisé que j'avais jamais touché de ma vie un FF et on m'avait déconseillé de commencer par celui-là.
Alors, on va préciser qu'il s'agit de Final Fantasy Type 0. Non, j'aurais pu te le conseiller parce qu'en fait, il est totalement différent des autres FF. C'est-à-dire que c'est plus un action RPG. Alors, tu as quand même un système de cartes comme sur FF7, tu te balades sur la map, ouais, et tu as des combats qui se déroulent, enfin, qui pop aléatoirement sur la carte. Par contre, le système de combat, c'est pas du tour par tour, c'est ultra dynamique.
C'est en temps réel.
C'est en temps réel, tu peux changer de personnage, chaque personnage a des pouvoirs différents, c'est vraiment de l'action RPG. Et non, moi, je conseille beaucoup ce jeu. C'est un jeu un peu atypique, qui est pas tout à fait adapté au format console de salon, même si moi je l'ai sur PS4. Mais à la base, c'est quand même un jeu mobile, hein. C'est un jeu nomade FF Type 0, c'est un jeu PSP, qui n'est pas sorti en Europe, qui est sorti qu'au Japon. Et ils ont fait une réédition PS4 pour vendre, parce qu'il faut le dire comme c'est, hein, pour vendre la démo de FF15. Hein. Les gens ont acheté ce jeu pour avoir la démo de FF15, parce que c'était vendu avec. T'avais un code de téléchargement pour la démo d'FF15 dedans.
D'accord. Allez, on monte dans son méca et on part pour l'aventure. Qui danse du ventre et tout là, non?
Ah, ça te fait penser à ça, toi?
Ouais.
Ah, ça se voit que t'as pas touché au jeu.
Ouais, non, c'est clair. Ouais.
En fait, ce thème-là, c'est le thème de la map quand tu sors de New Los Angeles.
Donc le jeu, on rappelle, c'est
Xenoblade Chronicles X sur Wii U. Le jeu est tellement immense, la map est tellement grande que cette musique-là me illustre bien ce côté gigantesque, moi je trouve justement. Et le thème est hyper marquant et je trouve que c'est pareil. Hein, ce jeu-là, il a une OST qui est magnifique, qui a vraiment une identité.
D'accord.
Et ce thème, ouais, moi ce thème, je l'adore, je le trouve vraiment génial. Et c'est pareil, quand je suis sur la map, j'arrête de jouer et j'écoute la musique.
Ah oui, carrément.
Ah ouais, non, je la trouve super, je la trouve vraiment excellente. Ouais.
Ok, continue ou
continuons. C'est acheter Xenoblade Chronicles X.
S'il est encore trouvable.
Ah, peut-être. Oh, si, je pense qu'il est encore trouvable.
De toute façon, la Wii U, c'est fini, donc elle va commencer à prendre de la valeur, certains jeux comme ça. Eh bien, écoute, on reste en mode oriental, mais cette fois, dans la bagarre.
C'est le thème culte de Street Fighter V, quoi. Qu'est-ce que t'en penses?
Culte, c'est vrai qu'il a beaucoup on en parlait sur Twitter, ah, ça a
trollé. Il est déjà culte.
C'est énorme. Enfin, bref, ça a beaucoup trollé, mais moi je trouve que toutes les musiques de Street 5 en fait sont bien.
Ouais, elles sont bien. Ouais. En fait, t'as envie d'allumer le jeu quand t'entends ça. C'est
ah ouais,
pareil.
C'est clair.
Viens, on joue à Street. Viens, là, je te défonce avec ma Laura là.
Non, c'est l'inverse, tu sais bien.
C'est
pas tout rentre dans Terry, c'est tout rentre dans Vague, tu sais bien.
Non, mais c'est vrai que ce thème-là, moi je le trouve drôle, je le trouve amusant en fait. Et dynamique à fond, avec des bonnes basses derrière. Vraiment super, super, excellent thème, quoi. Le plus marquant de Street 5 pour moi.
D'accord. Eh bien, est-ce que on avance
ou... Eh bien, allons-y, avançons, continuons. Et là, on va arriver sur un jeu qui n'est pas encore sorti à l'heure où on parle, mais où il sera sorti lorsque vous l'écouterez. Fantasy XV. Jeu qui n'est pas encore sorti à l'heure où je parle, mais quand on entend cette musique, la musique du trailer de présentation de FF15, j'ai juste envie de poser mes mains dessus, quoi. C'est magnifique, la compo est super. Alors c'est pas Nobuo Uematsu, c'est Yoko Shimomura qui a composé cette musique là, et j'ai envie de dire, j'ai envie qu'il continue en fait, parce que c'est vraiment, j'adore ce type de musique, ça correspond totalement à l'ambiance FF. Et je sais pas, qu'est-ce que t'en as pensé, toi?
Je reconnais que c'est... Alors, moi, encore une fois, bah, j'ai pas joué parce qu'il est pas sorti, mais je pense pas que j'y jouerai plus, d'ailleurs. Mais très belle musique. Après, c'est un jeu qui a eu un développement archi compliqué.
Ça fait peur.
Est-ce qu'il va être bien? Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, pour la musique, clairement, oui, elle est très jolie.
La musique est super, mais ça fait peur, FF15, mais j'ai confiance. J'ai envie d'y croire.
Très bien. Par contre, je sens qu'on va exploser les scores au niveau de la durée de l'émission. Mais bon. Allez, on change complètement. On part maintenant dans un jeu indé. Futuriste, très high-tech, je dirais.
Ah ouais, là, on est à fond dans la drum and bass, voilà, du turfu, on va dire. Et ça, c'est la musique, je crois, de l'écran-titre, carrément, de Fury. Et quand j'ai téléchargé le jeu, parce qu'il
gratuit,
était gratuit
sur PSN, il y a quelques mois, ouais.
J'avais mis mon casque 7.1, tout ce que tu veux, avec des super basses dans le casque.
Ouais, t'es au taquet, quoi.
Ah, je suis resté une demi-heure sur l'écran-titre. Tellement j'ai kiffé cette musique.
Tu joues pas au jeu, tu poses sur l'écran titre et en avant t'écoutes, quoi.
Attends, cette musique, elle est exceptionnelle. Moi, elle m'ambiance à fond. Et pour parler du jeu, c'est Fury, c'est une sorte de mélange entre un jeu de baston, jeu d'action, baston, shoot'em up, ultra exigeant. Alors, j'ai pas dépassé le niveau 2. Maintenant, j'ai pas trop squatté non plus, mais c'est une sorte de gros Dion Retry. Super super hardcore, fait par des Français, Gamebackers. Si vous avez pas le jeu et que vous aimez bien les challenges, téléchargez le jeu. Et toi, je te conseille d'y jouer, tiens, Terry, d'ailleurs. Tu risques de kiffer.
Donc là, tu m'as balancé que c'est encore un jeu que j'ai pas fait.
Bah oui, bah, je suis désolé, hein, mais il faut assumer aussi. Hein.
Ok, on finit par quoi pour cette dernière musique, Beg?
Alors écoute, on va finir par une musique d'un jeu qui s'appelle Transistor. Pour ceux qui n'ont pas joué, je vous le conseille parce que c'est un jeu qui, moi, m'a foutu une putain de grosse claque à l'époque sur PS3. Donc, je crois qu'il est sorti en 2012 ou 2013, je ne sais plus exactement. Mais il n'y a pas très longtemps.
C'est pas sur PS4, Transistor?
PS4, pardon, qu'est-ce que je dis
PS3. Moi, je l'ai fait, celui-là, par
PS4,
contre.
Pardon, PS4.
Un jeu très bizarre, d'ailleurs.
Moi, j'ai adoré l'ambiance.
Tu arrêtais le temps, tu pouvais faire des mouvements d'avance,
voilà,
et tout.
En fait, ce que tu faisais,
c'est tes coups d'attaque et
c'est
tout.
C'est ça. Tu programmais tes coups. Pour ensuite les lâcher d'un coup sur les ennemis qu'il y avait. Tu pouvais personnaliser tes skills en fait pour ensuite t'adapter aux différentes situations, et il faut remettre donc le scénario au cœur du jeu, parce que c'est ce qui fait que la bande son est bonne, c'est le scénario, parce qu'en fait tu incarnes une chanteuse qui a perdu sa voix, et la chanson qu'on va écouter c'est une chanson chantée, c'est la voix de l'héroïne avant qu'elle perde sa voix et qu'elle utilise donc Transistor, qui est une épée dans laquelle l'âme de son mari est enfermée.
Très bien, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Twitter?
On peut me retrouver sur Twitter sur @beg4me91, beg4me91, sur le tweet de la Geekosphère, @geekostream, et pareil sur Facebook, le Facebook de la Geekosphère.
Tout simplement, donc ce podcast paraîtra en fin d'année ou début d'année prochaine, on ne sait pas encore. Ouais.
Joyeux Noël, bonne année.
Exactement, bonne fête de fin d'année. Voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur Twitter. Suivez-moi également sur Twitter avec Terry_level_max, ou encore notre podcast _levelmax, tout attaché _. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci à ceux qui ne nous ont pas écoutés également. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment de détente et de musique. Je vous rappelle que nous avons une page Facebook, les podcasts de Level Max, que nous sommes disponibles sur SoundCloud, iTunes et Hardzis. N'hésitez pas à vous abonner, partager notre page, partager le nouveau podcast, ou encore à nous donner votre retour. Je ne vous dis pas au mois prochain, mais plutôt un prochain Sandmax. Salut !
Salut, salut !
Bring it on!